Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 5 octobre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Le président de transition au Mali, Bandawa, a nommé un gouvernement de 25 membres dans lequel les militaires obtiennent les postes clés. Une centaine de djihadistes ont été libérés ce week-end en vue d'un échange avec Soumaïla Cissé et l'humanitaire Sophie Petronin. Donald Trump, qui a contracté le coronavirus, a annoncé qu'il quitterait l'hôpital à 18h30 ce lundi. Le médecin de la Maison-Blanche s'est exprimé sur son état de santé. Poursuite des combats au Nagorno-Karabakh, région séparatiste d'Azerbaïdjan soutenue par l'Arménie. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Le président de transition au Mali, Bandao, a nommé un gouvernement de 25 membres dans lequel les militaires obtiennent les postes clés. Selon un décret lu à la télévision publique au RTM, au moins 4 ministères stratégiques, la défense, la sécurité, l'administration territoriale et la réconciliation nationale, sont confiés à des colonels. Selon le décret lu par le secrétaire général de la présidence, Sékou Traoré. Au Mali, les regards sont tournés vers la région de Kidal où doivent avoir lieu des échanges de prisonniers et d'otages des djihadistes. Parmi les otages en question, on parle du président de l'URD, Soumaïla Cissé, et de l'humanitaire française, Sophie Petronin. Kassim Traoré nous en dit plus.
Ici, on attend la relaxe de Soumaïla Cissé très bientôt. Toutes les sources habituelles claires affirment fermement qu'il fait partie et le processus est enclenché. Nous confie un notable de Kidal. Les gens parlent de Tessalit comme un lieu de libération, mais logique, le vrai ne serait qu'une fois Soumaïla Cissé remis soit aux autorités maliennes ou à une organisation non gouvernementale, ajoute une source basée à Tessalit. Parmi les prisonniers dans l'échange, il y aurait Fawaz Ould Almeida, dit Ibrahim X, impliqué dans les attaques du restaurant La Terrasse et l'hôtel Radisson. C'est pourquoi des chaînes proches de Al-Qaïda se réjouissent et annoncent ce qu'ils appellent « bonne nouvelle ». Selon une source sécuritaire basée à Bamako, les djihadistes qui seront libérés avaient déjà leur dossier entre les mains des juges. En plus de Soumaïla Cissé, la Française Sophie Petronin peut être aussi parmi les otages qui seront remis aux autorités maliennes. Au moment où nous éditions cette information, Soumaïla Cissé n'avait pas encore été libéré. Et la dernière vague des prisonniers n'avait pas quitté la capitale malienne pour Tessalit, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les écoles ont rouvert en Sierra Leone, mais avec une fréquentation timide. Les écoles maternelles ont ouvert la semaine dernière et tout se passe bien, a déclaré le ministre de l'Éducation, David Mwanina Senge. Plusieurs des écoles de Freetown étaient partiellement vides ce lundi, avec pour la plupart des dispositifs pour se laver les mains à l'entrée et beaucoup d'élèves qui portaient un masque. Les autorités égyptiennes ont arrêté une journaliste qui enquêtait sur les suites de manifestations dans un village près de Louxor. Basma Mostafa a été déférée au parquet dimanche après avoir disparu la veille alors qu'elle effectuait un reportage. Elle s'intéressait à la mort d'un homme qui aurait été tué par la police pendant des manifestations en septembre, selon Al-Manassa, journal pour lequel elle travaille. En Algérie, des rassemblements de centaines de personnes ont eu lieu ce lundi à Alger et en Kabylie pour l'anniversaire du soulèvement populaire du 5 octobre 1988. Bravant l'interdiction de rassemblement, les manifestants ont réclamé la libération des prisonniers du Irak. À Alger, plus de 400 personnes ont tenté de marcher dans le centre-ville avant d'être repoussées par la police. Par ailleurs, les élèves du primaire en Algérie vont reprendre l'école en présentiel le 21 octobre et ceux des collèges et lycées le 4 novembre, après plus de 7 mois d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19. Ces dates ont été annoncées dimanche à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. L'Afrique du Sud va louer 700 000 hectares de terre à des fermiers noirs pour corriger les inégalités raciales, a indiqué le président Cyril Ramaphosa, soulignant que cela aiderait à créer de l'emploi dans les zones rurales. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière qu'il proposerait mi-octobre des baux de 30 ans sur des terres sous-utilisées ou libres, à condition que les loueurs s'engagent à les utiliser à des fins agricoles.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump, atteint du coronavirus, a annoncé qu'il quitterait l'hôpital ce lundi. Je quitterai le formidable centre médical Walter Reed aujourd'hui à 18h30. Je me sens vraiment bien, a tweeté Monsieur Trump, en assurant se sentir mieux qu'il y a 20 ans selon ses termes. Le médecin de la Maison Blanche, Sean Conley, devait faire un nouveau point de presse ce lundi à 15h sur l'état de santé de Monsieur Trump. Par ailleurs, la porte-parole de la Maison Blanche, Kalik McEnany, a annoncé avoir été testée positive au coronavirus lundi, après avoir été testée négative chaque jour depuis jeudi. Elle a précisé se mettre en quarantaine. La ville de New York prévoit de refermer écoles et commerces non essentiels dans 9 quartiers de Brooklyn et Queens, où l'épidémie repart depuis 2 semaines. Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe, a dépassé dimanche la barre des 500 000 cas de Covid-19. En France, le préfet de Paris a annoncé de nouvelles mesures, dont la fermeture des bars à partir de mardi, pour faire face à la progression de la pandémie dans la capitale. Selon l'OMS, 10% de la population mondiale est infectée par le coronavirus. Coup d'envoi des prix Nobel 2020 avec celui de médecine attribué à 3 virologues, le Britannique Michael Houghton et les Américains Harvey Alter et Charles Rice. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le trio est récompensé pour sa contribution décisive à la découverte du virus de l'hépatite C, a indiqué le jury. À la fin des années 70, Harvey Alter a identifié qu'une contamination hépatique a lieu lors de transfusions alors qu'elle n'était ni liée à l'hépatite A ni l'hépatite B. En 1989, Michael Houghton et son équipe basée au Canada sont crédités de la découverte du virus. Charles Rice a ensuite décortiqué la façon dont il se répliquait, des travaux qui ont conduit à l'émergence d'un nouveau traitement révolutionnaire dans les années 2010. Patrick Hanford, président du comité, a souligné que le même procédé pourrait être utilisé concernant le COVID-19. « Je n'avais même pas réalisé que c'était aujourd'hui. C'est époustouflant », a réagi Harvey Alter, 85 ans. L'OMS estime à 70 millions le nombre d'infections par l'hépatite C, causant 400 000 décès chaque année. Les lauréats qui partageront près d'un million d'euros recevront leur prix dans leur pays de résidence. Cette édition 2020 se poursuit demain avec la physique et mercredi avec la chimie. Le Nobel de la paix sera attribué vendredi. Le coronavirus a entraîné l'annulation de la cérémonie physique de remise des prix le 10 décembre à Stockholm.
Les combats continuent dans le Nagorno-Karabakh, région séparatiste d'Azerbaïdjan à majorité arménienne. Les affrontements ont fait 245 morts depuis le début du conflit. Le secrétaire général de l'OTAN appelle au calme, Mohamedou Oumfa.
Les forces séparatistes arméniennes du Nagorno-Karabakh et l'armée azerbaïdjanaise continuent leurs affrontements. Ce lundi, pour la 2e journée consécutive, des zones urbaines sont bombardées. Le ministère des Affaires étrangères des indépendantistes du Karabakh a indiqué que leur capitale, Stepanakert, peuplé de 50 000 habitants, avait été visé par des tirs de roquettes intensifs. Selon un témoin, la ville a subi 3 heures de bombardement. Ce lundi, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a exhorté la Turquie, principal allié de l'Azerbaïdjan, à user de son influence pour calmer les tensions. Le chef de la diplomatie turque a, pour sa part, estimé que l'ONU devrait appeler l'Arménie à se retirer de l'enclave et au respect de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Après plus d'une semaine de combat, le bilan des morts, qui est très partiel, l'Azerbaïdjan ne communiquant pas sur ses pertes militaires, s'établit à 245, soit 202 combattants séparatistes, 18 civils du Karabakh et 25 civils azerbaïdjanais.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Alors qu'il misait initialement sur une croissance de 5,3% en 2020, le Sénégal a dû revoir ses prévisions à la baisse. Le pays s'attend désormais à voir son PIB reculer de 0,7% cette année. Cette baisse est due au COVID-19 qui a surtout affecté le transport aérien ainsi que le tourisme et les versements des Sénégalais de l'étranger, deux importantes sources d'argent. En Angola, Edetru Des Costa, directeur de cabinet et bras droit du président Lourenço, est accusé de détournement de fonds publics par une enquête de la télévision portugaise privée TV24 relative à plusieurs contrats publics accordés à des entreprises appartenant à M. Costa. L'un de ces contrats porte sur la rénovation des aéroports angolais pour un montant de plusieurs millions de dollars. Selon TV24, M. Costa a transféré ses fonds publics sur des comptes offshore au Panama et au Portugal pour acheter de luxueuses propriétés. Ni le chef de l'État ni son bras droit n'ont commenté ces accusations. Pour terminer, 143 milliards de francs CFA, c'est le coût du stade olympique d'Abidjan et ses installations annexes en Côte d'Ivoire que les autorités ivoiriennes ont inauguré le week-end et que la Chine a financé à hauteur de 63 milliards de francs CFA. Les travaux ont été exécutés sur près de 4 ans par une entreprise chinoise. Le stade des Bimpé accueillera le match d'ouverture et la finale de la CAN 2023.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Des nouvelles du marché des transferts avant la fermeture ce soir. Le Bayern Munich a officialisé le recrutement pour une saison d'Éric Maxime Choupo-Moting en provenance du Paris Saint-Germain. L'attaquant international camerounais de 31 ans a signé un contrat jusqu'au 20 juin 2021, indique le club bavarois sur son site internet. L'ancien Parisien, qui doit servir de doublure au buteur Robert Lewandowski, a déjà joué en Allemagne à Hambourg, Nuremberg, Mayence et Schalke 04. Le Bayern Munich était sous pression pour recruter avant la fin du mercato ce soir. L'entraîneur Hansi Flick avait demandé plusieurs renforts pour compenser les départs, notamment de Philippe Coutinho et Perisic en attaque et de Thiago Alcantara en milieu de terrain. De son côté, le FC Séville a accueilli un nouveau joueur marocain, Ousmane Idrissi, qui arrive de l'AC Alkmaar. Il a signé un contrat de 5 ans avec le club espagnol, rejoignant ainsi ses compatriotes Yassine Bounou, Mounir El Adadi et Youssef El Nesri, déjà en Liga. Athlétisme, coup de tonnerre hier sur le marathon de Londres, invaincu depuis 7 ans. Le Kenyan Eliud Kipchoge a craqué en fin de course et terminé seulement 8e. La victoire revenant à l'Éthiopien Shura Kitata à l'issue d'un sprint dantesque. Kitata l'a emporté en 2h5'41 devant le Kenyan Vincent Kipchumba à 1 seconde et son compatriote Cizei Lema à 4 secondes. Pour la première fois de sa carrière sur marathon, Eliud Kipchoge a subi une défaillance et n'a pas pu jouer la victoire. Sa seule défaite remontait à Berlin en 2013 où il avait terminé 2e derrière son compatriote Wilson Kipsang Kipruchich. Shura Kitata, 24 ans, remporte ainsi sa première victoire majeure. Chez les femmes, la favorite a su se faire respecter. La Kenyane Brigitte Kosgei a assis sa domination sur la distance en remportant la course pour la 2e année consécutive en 2h18'58. Ici, en finale NBA, le cœur du Heat bat encore grâce à Jimmy Butler, auteur d'un énorme triple-double, 40 points, 11 rebonds et 13 passes décisives. Il a mené son équipe à une victoire cruciale aux dépens des Lakers, 115 à 104. Miami, dont c'est la sixième finale en 15 ans, a réalisé un véritable exploit, d'autant que ses deux cadres Bam Adebayo, non remis de ses tensions cervicales, et Goran Dragić, qui souffre d'une blessure au pied gauche, étaient encore absents. Du début à la fin, le Heat a constamment dominé. Los Angeles a fait illusion par à-coup grâce surtout à LeBron James, 25 points, 10 rebonds, 8 passes décisives. Le Heat reste cependant mené 2-1 dans cette finale relancée.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. La deuxième ville du Burkina Faso, Bobo Dioulasso, a organisé ce week-end la compétition de danse urbaine couleur vacances. Malgré le contexte de pandémie, la manifestation a pu se tenir, mais le concours qui se veut régional n'a pas pu accueillir, comme les années précédentes, des participants de pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo ou encore le Bénin, en raison de la crise sanitaire. Un reportage de notre correspondant Lamine Traoré.
De la danse, encore de la danse devant des milliers de spectateurs. 5 groupes en compétition, 2 de Ouagadougou et 3 de Bobo Dioulasso. Au finish, c'est le groupe Samouraï de Bobo Dioulasso qui est monté sur la plus haute marche du podium en remportant 1 200 000 francs CFA. Mohamed Dambélé est le coach du groupe.
On est trop contents ce soir parce que bon, on vient de réaliser notre rêve. Oui, le corona, ça nous a trop empêché de bosser parce que au niveau de la préparation, quand on voulait demander du financement pour nos matériels dedans, nos accessoires, ça n'a pas été facile. Tout le monde nous fuyait. Bon, on le comprenait parce que le corona, vraiment, ça n'a pas été facile.
Même dans ce contexte de coronavirus, le public a répondu présent. Des mesures barrières plus ou moins respectées. Une spectatrice.
Franchement, c'est la finale de la couleur vacances. En réalité, c'était chaud, vraiment chaud. Tellement c'était chaud. Avant de rentrer, on nous a donné du gel pour laver les mains, pour nettoyer les mains.
Cet étudiant est venu lui aussi assister au spectacle.
Chaque année, voilà, on assiste à une cérémonie pareille qui rassemble les élèves, les étudiants autour de la culture. Et c'est un réel plaisir d'assister. C'est vrai que le contexte actuel est critique, voilà, et que nous devons tenir compte des mesures barrières. Mais c'est toujours un plaisir d'assister à une cérémonie à laquelle où on sent que les gens ont de plus en plus confiance, voilà, en ce que l'État fait. Voilà, même si c'est difficile pour nous de respecter ces mesures-là, mais on va continuer toujours avec l'aide de nos aînés.
Avec le Covid-19, les organisateurs n'ont pas pu ouvrir cette édition des Couleurs Vacances au pays de la sous-région.
Couleurs Vacances est une compétition internationale qui regroupe d'habitude 7 à 8 pays.
Sylvain Bamouni est le directeur des opérations du groupe Ebony, structure organisatrice de la manifestation.
Cette année, vous êtes tous au courant de cette pandémie de coronavirus, ce qui n'a pas permis aux groupes étrangers de faire les déplacements sur Bobo Dioulasso. Donc nous avons fait une compétition nationale en regroupant les différents groupes des différentes régions du Burkina qui se sont croisés à Bobo.
Cela fait 14 ans que la manifestation qui réunit chaque année les jeunes pendant les vacances se tient. Les organisateurs n'ont pas voulu annuler cette édition. Ils espèrent que la 15e édition en 2021 se tiendra, elle, dans de meilleures conditions. Lamine Traoré, Bobo Dioulasso, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Cette semaine, tous les regards sont braqués sur le président Donald Trump en traitement à l'hôpital militaire Walter Reed, près de Washington, après avoir été testé positif au coronavirus. Le chef de l'exécutif américain a assuré ce week-end dans une vidéo qu'il se sentait beaucoup mieux et qu'il espérait bientôt regagner la Maison Blanche. Le point avec Michel Keane, le récit de Lionel Gaïma.
Beaucoup d'inconnus entourent l'état de santé du président Trump, y compris comment son infection au Covid-19 pourrait affecter la campagne pour la présidentielle du 3 novembre. Plus de 35 millions de personnes ont été atteintes du nouveau coronavirus dans le monde, selon l'Université Johns Hopkins de Baltimore, dans l'état du Maryland. Dans une vidéo publiée samedi sur Twitter, le président Trump a lié sa lutte personnelle contre le Covid-19 à une mission pour aider les autres malades.
C'est quelque chose qui est arrivé, et c'est arrivé à des millions de personnes dans le monde entier. Je lutte pour elles, non seulement pour les États-Unis, mais je lutte pour elles dans le monde entier. Nous allons vaincre le coronavirus, ou quoi que vous vouliez l'appeler, et nous allons le vaincre nettement.
Les médecins du président des États-Unis ont fait savoir dimanche qu'ils le traitent avec le stéroïde dexaméthasone et qu'il pourrait regagner la Maison Blanche de ce lundi. La maladie du président intervient alors que son adversaire, l'ancien vice-président Joe Biden, et lui amorcent les 4 dernières semaines de campagne. L'équipe de Biden affirme avoir retiré des publicités électorales négatives après avoir appris que le président Trump avait été contrôlé positif au nouveau coronavirus. Un débat prévu mercredi entre le vice-président Mike Pence et la colistière de Joe Biden, la sénatrice Kamala Harris, est toujours au programme. Plusieurs sondages nationaux donnent l'avantage à Biden dans les intentions de vote. Comment la maladie du président affectera-t-elle les dernières semaines de la campagne électorale? Cette situation a forcé le camp Biden à fonctionner en deux modes. Exprimer sa préoccupation concernant l'état de santé de Trump, tout en établissant un contraste entre les styles de leadership des deux candidats. Kate Bedingfield est directrice adjointe de la campagne de Biden.
Ce n'est pas une question de politique, c'est une question du président des États-Unis recouvrant pleinement sa santé aussitôt que possible. Et je pense qu'en ce qui concerne notre campagne, comme je le dis, nous allons continuer de faire valoir le style de leadership de Joe Biden, son expérience, son unique habilité à unir le pays, à trouver un terrain d'entente, à trouver un consensus et faire avancer les choses.
Pour Jason Miller, haut responsable de la campagne de Trump, le président a pris de nombreuses précautions et a prouvé qu'il est un leader dans la lutte contre le virus.
Également, et ainsi que nous l'avons vu avec Joe Biden, je veux dire, nous ne pouvons pas rester dans notre sous-sol pour le restant de nos vies. Nous devons sortir et vivre nos vies, affronter cette situation, développer le vaccin, développer plus de traitements et la vaincre.
Pour le camp Trump, ce moment pourrait être une opportunité pour persuader les indécis qui pourraient faire la différence au jour du vote, estime la stratège républicaine Alice Stewart.
Il a besoin d'en parler à ses électeurs indécis et en adoptant un ton plus empreint de compassion et en reconnaissant la gravité de cette pandémie, cela pourrait certainement aider à faire pencher les gens n'ayant pas encore pris de décision.
Une chose est certaine, personne ne connaît l'issue de ce qui est déjà une bataille ardue pour la Maison Blanche. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À l'approche des élections du 3 novembre aux États-Unis, de nombreux Américains peuvent déjà voter par anticipation dans plusieurs États, soit en personne, soit par courrier. C'est le cas en Virginie où les électeurs votent depuis le 18 septembre et où l'on note un taux de participation record. Un reportage de Lesia Bakaletz relaté par Mouamadou Oumfa.
Dans ce bureau de vote du nord de la Virginie, à quelques encablures de Washington DC, les électeurs ont commencé à arriver tôt le matin et la file d'attente s'est allongée tout au long de la journée alors même que les élections sont prévues dans un mois. Le port du masque est obligatoire et la distanciation sociale est de mise pour un temps moyen d'attente d'environ 45 minutes. Aaron et Hélène sont électeurs dans ce bureau.
Cela semble prendre au moins une heure, peut-être plus d'une heure. Et vous êtes prêts à rester? Bien sûr, la démocratie américaine est en jeu.
Je ne m'y attendais pas, mais ça a évolué beaucoup plus vite que je ne le pensais. Je dois travailler aujourd'hui, mais mon vote est plus important aujourd'hui. Alors je vais le faire.
Dans le comté de Fairfax, les autorités en charge des élections disent avoir relevé un taux de participation record. Gary Scott, le directeur des élections du comté, affirme qu'il n'a pas vu d'aussi longue file d'attente en 24 ans de carrière.
L'année dernière, nous avons eu un total de 137 000 électeurs votant par anticipation, en personne et par correspondance. Cette année, nous avons déjà envoyé plus de bulletins de vote. Nous avons envoyé 170 000 bulletins. Nous pensons donc que les deux tiers de nos électeurs auront probablement voté ou reçu un bulletin de vote avant le jour du scrutin.
Selon certains experts, comme Mike McDonald de l'Université de Floride, environ la moitié des électeurs américains votent par anticipation.
Je prévois qu'environ 150 millions de personnes voteront et la moitié de ces personnes voteront avant le jour du scrutin. Donc environ 75 millions de personnes pourraient voter avant le jour du scrutin.
Des experts pensent que la principale raison de cet engouement autour du vote par anticipation est la pandémie de coronavirus. Les gens ont tout simplement peur des foules le jour du scrutin. C'est le cas de Laura Électrice.
Je suis un peu inquiète de ce qui pourrait arriver si mon bureau de vote sera ouvert et disponible en 2020. C'est évidemment très frustrant en 2020. Comme je l'ai dit, je suis très passionnée et veux contribuer au changement cette année.
En raison de la pandémie, de nombreux États ont simplifié la procédure de vote par anticipation et de vote par correspondance. Cette année, tout le monde peut voter par correspondance. Chaque État a le droit de décider quand commencer le vote par anticipation. La plupart des États ouvriront les bureaux de vote environ une semaine avant le jour du scrutin. Pour ce qui est du décompte, il faudra attendre le 3 novembre. Le décompte se poursuivra même après pour les votes par correspondance.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis ont été pendant longtemps le plus généreux fournisseur d'aide sanitaire et humanitaire au monde. Cette assistance est fournie avec le soutien du contribuable américain dans l'espoir que cela servira à un objectif utile et parviendra aux personnes nécessiteuses. Malheureusement, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a gravement échoué, non seulement dans sa réponse au COVID-19, mais aussi à d'autres crises sanitaires ces récentes décennies, a dit le porte-parole du département d'État, Morgan Ortegas, dans une déclaration. En plus de cela, l'OMS a refusé d'adopter des réformes urgentes, à commencer par démontrer son indépendance vis-à-vis du Parti communiste chinois. Résultat, les États-Unis ont annoncé leur date effective de retrait de l'OMS pour le 6 juillet 2021. L'engagement des États-Unis concernant l'aide sanitaire à l'étranger demeure fort. Durant la période menant à ce retrait, l'administration examine des moyens de mobiliser l'expertise de certains départements et importantes agences du gouvernement américain et du secteur privé pour apporter rapidement un soutien aux autres pays pour prévenir, détecter les épidémies des maladies infectieuses, y répondre à la source et répondre aux urgences humanitaires. Depuis 2001, le gouvernement des États-Unis a contribué plus de 142 milliards de dollars pour aider à prévenir, détecter et traiter le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose, l'Ebola et d'autres maladies infectieuses. nous fournissons en moyenne 10 milliards de dollars par an à la santé mondiale et cette année, cela va doubler alors que nous intensifions la lutte contre le COVID-19 dans le monde entier, a dit l'administratrice adjointe de l'USAID pour la santé mondiale, Dr. Alma Golden. Les États-Unis sont déterminés à assurer que le retrait de l'OMS n'affecte pas le niveau général de leur aide sanitaire aux plus vulnérables. Les États-Unis sont en tête de l'assistance sanitaire et humanitaire grâce à l'effort de tous les Américains. Et nous sommes engagés à assurer que notre générosité touche directement les populations à travers le monde, a ajouté Dr. Golden.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.